À l'occasion de la Journée mondiale de la contraception, nous allons décider de dédier cette émission du 26 septembre à la question parfois taboue de la contraception. Dans Enjeux de santé, nous allons chercher à savoir quel est le rapport entre les femmes et leur contraception, mais surtout, suite aux nombreux débats notamment sur la pilule, comment trouver une alternative à la prise d'hormones pour les femmes. Bien que considérée comme libératrice et émancipatrice de la femme à l'époque de la loi Neuwirth du 9 juin 1967, la contraception orale sous forme de pilule est aujourd'hui au cœur de nombreux débats. La pilule est le moyen de contraception le plus utilisé en France, notamment chez les plus jeunes. Pour autant, il soulève de nombreuses questions. Les effets secondaires indésirables que la pilule apporte à son utilisatrice, tout en la protégeant d'une grossesse non désirée, poussent de plus en plus de femmes à réclamer des avancées pharmaceutiques et à chercher un autre moyen de contraception. En effet, pour la plupart des pilules, parmi les effets indésirables dits fréquents figurent la modification du comportement et désir sexuel, les nausées, l'acné, les sautes d'humeur, la prise de poids ou encore le risque de dépression. Si la pilule ne convient pas à certaines femmes, quelles alternatives s'offrent à elles? Je suis allée à la rencontre du docteur Toussaint, gynécologue au service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, pour discuter avec elle du rapport entre les jeunes filles et la contraception. Pour comprendre de quelle manière s'établit ce rapport, le docteur Toussaint nous parle du premier entretien avec la patiente.
Donc c'est hyper varié suivant les filles. Ce qu'on fait en fait, c'est que pour un premier entretien qui correspond souvent à une première consultation en gynécologie, l'étudiante est reçue d'abord par une infirmière. Donc il prend vraiment beaucoup de temps pour l'écouter sa demande et lui présenter tous les moyens de contraception possibles. Et donc après, le gynéco revoit ça. Revoit la patiente, réécoute. Alors ça peut varier. L'étudiante entre-temps est retournée en salle d'attente, la demande se précise, etc. Elle peut même changer d'avis, voire dire totalement autre chose. Mais ça permet à la réflexion de se mettre en route. Et donc à ce moment-là, on a la demande de l'étudiante. Oui, évidemment, on lui présente tous les moyens de contraception. Si elle a une demande très précise, on respecte sa demande, bien évidemment, en lui expliquant les tenants et les aboutissants. Et sinon, vu l'âge de nos étudiants, enfin moi personnellement, en tout cas, j'essaye d'orienter vers un moyen le plus efficace possible.
Les jeunes femmes sont conseillées sur leur contraception, mais de quelle manière les conseils sont orientés selon la patiente?
Tous les moyens de contraception sont possibles, sauf qu'il y a une efficacité qui est... on sait que c'est un âge où les filles sont très fertiles, donc il faut quand même des moyens, bien sûr. Et on sait aussi que, les statistiques le disent, quand on met juste le préservatif, il y a 25% d'échecs chez les moins de 25 ans. Donc ça, c'est une donnée qui est vraiment spécifique à notre population étudiante et moi que je mets en relief assez souvent parce que en fin de compte, 25% de change d'échec, c'est beaucoup. Donc il y a beaucoup d'étudiantes actuellement qui sont contre les hormones, etc., etc. Et donc je les mets vraiment face à cette réalité-là en disant « Ok, mais le préservatif seul, c'est 25% d'échec ». Donc si vous avez un échec, ça sera la pilule du lendemain, 10 fois plus d'hormones, ou alors un IVG, 10 fois plus d'hormones, ou une grossesse, 10 fois plus d'hormones. Donc les mettre un peu face à cette contradiction, ne pas vouloir d'hormones et du coup prendre des risques de devoir en prendre beaucoup plus.
Même si la méthode de la pilule contraceptive est plus conseillée, y a-t-il des moyens de contraception qui permettent d'éviter la prise d'hormones? Le docteur Toussaint nous parle des stérilets ou des dispositifs intra-utérins.
Pour celles qui catégoriquement ne veulent pas de pilule, donc il y a ces deux stérilets. Donc ils ne sont pas forcément... soit la fille n'a aucun problème de règles, elles ne sont pas trop abondantes, etc. On peut mettre le stérilet en cuisson sans aucun souci. Il a l'avantage de durer 5 ans et de ne pas être oubliable. Soit les règles sont très abondantes et le stérilet en cuisse dans ces cadres-là sera difficile à prescrire. Et donc j'essaye de leur faire accepter ce stérilet avec un peu d'hormones, très peu, de progestatif uniquement, pas d'oestrogène, et qui est vraiment très bien.
La pilule est l'un des moyens de contraception les plus efficaces, cependant de nombreuses polémiques l'entourent, notamment sur ses effets secondaires.
C'est pas un mythe, c'est-à-dire qu'il y a des pilules pour certaines filles qui provoquent des effets secondaires, type prise de poids, boutons, enfin toutes sortes de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a énormément de choix dans les différentes pilules, qu'il n'y a pas une fille qui réagit de la même façon à la même pilule qu'une autre. Donc c'est vraiment quelque chose, il faut chercher la pilule qui convient. Mais on a tellement de choix que franchement, si on ne la trouve pas, c'est vraiment pas de chance. Il faut s'énerver un petit peu et pas rester avec des problèmes, ça c'est évident. Non, il faut entendre ces problèmes-là, ils existent. C'est pas la majorité, je dirais, je sais pas le pourcentage, hein, mais c'est quand même une minorité de filles qui ont des soucis avec la pilule. Mais par contre, quasiment, une pilule qui ne convienne pas à une personne, c'est quasiment pas possible. Il suffit de la chercher.
Ces effets secondaires sont donc bien présents et ressentis par une minorité de patientes, mais sont-ils bien exposés lors du premier entretien?
Les plus fréquents, Je vais lui dire, par exemple, surtout la prise de poids, qui intéresse beaucoup les étudiantes, elles ont très peur. Donc, en fait, je leur explique bien que la prise de poids n'est pas due à la pilule, mais qu'elle stimule l'appétit. Donc, je leur fais prendre conscience qu'il faut faire vraiment attention à manger comme d'habitude et pas augmenter la dose, les rations. Et dans ce cadre-là, en général, ça se passe bien.
Pour ne pas souffrir des effets secondaires négatifs de la pilule contraceptive, y a-t-il un réel suivi par le corps médical afin de vérifier la convenabilité de ce moyen de contraception pour cette patiente en particulier ?
Pour la pilule, en tout cas, c'est très clair. On fait tous les bilans lipidiques avant, etc. Donc on revoit. En général, on prescrit pour 3 mois et on fait un point au bout de 3 mois, 2 mois et demi, le temps de pour pas tomber en panne de pilule, pour savoir si tout se passe bien. Effectivement, et évidemment. Et puis, bon, bah, ici à l'université, de toute façon, ils savent très bien qu'ils peuvent venir en urgence s'il y a le moindre souci, des questions autour de la prise de pilule, les oublis, les machins. Il y a toujours une infirmière pour répondre aux questions de ce type-là. Elles peuvent venir et poser la question en urgence. C'est pas une vraie urgence, mais pour nous, on considère quand même comme une urgence pour les habitués parce que c'est pas si simple. En fait, on se pose plein de questions quand on prend la pilule. Si on vomit, est-ce qu'elle marche toujours? J'ai oublié ma pilule, gna gna gna. Donc, ce n'est pas si facile. C'est toute une éducation, plein de questions. Donc, on est à leur disposition pour répondre à ces questions en temps réel. Ben, les médecins, il n'y a jamais rien d'obligatoire. C'est dans les recommandations, on va dire. C'est dans les recommandations. Et puis, ben, nous, on insiste plus et on prend plus de temps parce qu'on sait bien qu'on a des jeunes filles qui démarrent leur vie sexuelle. Donc, c'est vraiment le moment de faire de la pédagogie et de prendre son temps. Ce que peuvent pas toujours faire les médecins de ville qui sont encore plus débordés que nous.
Pour ces jeunes femmes qui éprouvent des difficultés à trouver le moyen de contraception approprié, y a-t-il une nécessité d'amélioration de moyens existants ou d'élaboration de nouveaux moyens ?
Moi, je trouve qu'on a pas mal de choix, déjà. C'est quand même ce nouvel, par exemple, le stérilet avec un peu d'hormones, là, il est arrivé, il a été créé pour les jeunes filles il y a que quelques années. Et c'est vraiment un très bon moyen, quand même. Bon, il y en a qui ne supportent pas l'idée d'avoir un corps étranger, mais c'est quand même... Moi, je trouve qu'on a déjà pas mal de choix. Je me sens pas non plus en manque de moyens.
Bien que l'éventail des choix des moyens de contraception pour les femmes soit considéré comme étant assez important et que leur composition est relativement variée, qu'en est-il pour les hommes ? Si la conception d'un enfant se fait à deux, force est de constater que c'est souvent à la femme de se protéger d'une grossesse non désirée. Pour en savoir plus sur les méthodes de contraception masculine, je suis allée à la rencontre du collectif Thomas Boulou. Cette association a choisi de développer le Boulou Show, une méthode de contraception testiculaire thermique imaginée par le docteur Mieuxet. La méthode est simple, elle part du constat que la température des testicules est 2 à 4 degrés en dessous de celle du reste du corps et que c'est cette différence qui permet la spermatogénèse, le processus de production des spermatozoïdes. La méthode dite du remonte-couille toulousain va ainsi remonter les testicules pour les mettre à la même température que le reste du corps et ainsi empêcher la spermatogénèse. J'ai donc rencontré Aurélien du collectif Thomas Boulou qui nous montre en quoi la question de la contraception est importante et beaucoup plus profonde qu'on ne peut l'imaginer. Lorsque l'on s'intéresse à la contraception, on se rend compte à quel point la question est genrée. De manière générale, on peut constater que dans une relation, lorsqu'il faut à la fois se contracepter et se protéger des IST et MST, la responsabilité pèse principalement sur l'homme avec l'usage du préservatif masculin. Cependant, lorsque les risques de transmission sont écartés et qu'un moyen de contraception uniquement est nécessaire, la charge revient presque automatiquement à la femme. Aurélien nous parle de la question de la responsabilité dans la contraception.
Je pense que ce n'est pas une fatalité, que les hommes peuvent prendre leurs responsabilités dans ces domaines-là, comme nous on croit, on se dit un petit peu aussi que si les hommes prenaient plus leurs responsabilités dans le domaine de la prévention des IST et de la contraception, ils seraient aussi plus responsables pour ce qui est de la parentalité, par exemple, et puis de tous les aléas d'une relation amoureuse aussi. Enfin, il y a la responsabilité affective aussi, relationnelle. Et tout ça, c'est un gros chantier qui est largement politique, que nous, en tout cas dans notre groupe, on essaye de penser conjointement avec le travail qui est fait par les groupes féministes, qui ont leur travail à faire qui nous concerne pas, leur lutte à mener et leurs choses à organiser qui nous concernent pas forcément. Mais nous, on s'est dit de notre côté qu'on pourrait essayer de travailler à ce que les hommes soient un peu plus conscients de toutes ces choses-là, qu'ils se mettent déjà à réfléchir, éventuellement à changer un petit peu certaines pratiques, et que peut-être que s'il y a de plus en plus d'hommes qui rentrent dans une démarche de responsabilisation à tous les niveaux, là, au niveau de leur sexualité, eh ben, quelque part, ça viendrait faciliter le terrain ou soutenir en tout cas les luttes des femmes aussi. Je pense que c'est un gros chantier et que nous, on fait nos interventions, on touche pas mal de monde. À chaque fois qu'on va quelque part, il y a 10, 20 personnes, 30 personnes qui viennent nous voir, discuter avec nous et tout ça. Bon, mais à l'échelle de la France ou du monde, ça ne change pas grand-chose. Hein, mais on fait notre petit travail et on espère par boule de neige comme ça que ça fasse un petit peu élever le niveau de conscience générale des hommes.
L'association va plus loin dans cette idée de lutte conjointe avec les féministes en affirmant dans la présentation de leur collectif l'idée commune des membres selon laquelle un patriarcat existe et que ce constat ne peut être nié. Mais en quoi le lien est-il fait entre la contraception et le patriarcat ?
Au privilège que constitue, mine de rien, le fait de ne pas trop se préoccuper de ces choses-là. Et le patriarcat, c'est un peu ce système-là dans lequel tout le monde est plongé. Individuellement, on n'a pas l'impression en fait, d'œuvrer pour être un dominant, par exemple, en tant qu'homme. On n'est pas forcément consciemment tout le temps en train de se rendre compte que, en fait, on a des privilèges, qu'il y a plein de situations qui nous profitent, plein d'espaces dans lesquels en fait, c'est nous qui sommes légitimes ou qui n'avons pas peur de qu'est-ce qui peut se passer, etc. Enfin, bon, il y a plein de choses. Je crois que les hommes sont largement inconscients en fait, de ce qui se passe et de leur participation. La contraception, c'est un des domaines justement où, vu qu'on ne savait pas, enfin, moi, avant de rencontrer et créer ce groupe-là avec les copains, je ne savais pas non plus en fait que c'était possible qu'un homme maîtrise sa fertilité, soit contracepté. Le fait de ne pas savoir, ça aide facilement à profiter de ce privilège-là qui est de ne pas se préoccuper. En fait, les femmes font ça pour nous. De la même manière qu'avec le suivi gynéco, elles nous préviennent, nous, en fait, de toutes les IST et tout ça, parce que finalement, c'est elles chez qui ces IST sont détectées, soignées, et puis par l'intermédiaire des femmes, on soigne l'ensemble de la population. Mais c'est compliqué parce que j'ai pas l'impression qu'il y a un intérêt direct qu'on pourrait dénoncer de manière flagrante. Il n'y a pas des intérêts calculés, cyniques, etc. Ou peut-être je ne les vois pas moi, quoi, mais en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait des choses aussi facilement dénonçables. Et que c'est ça qui fait que c'est compliqué. On ne sait pas très bien analyser du coup précisément la délégation de toutes les questions de contraception aux femmes. En quoi est-ce que c'est vraiment un outil, un instrument du patriarcat ? Moi, ça me semble évident, mais j'arrive pas trop à l'argumenter, quoi, à le développer. J'ai quand même le sentiment, par l'expérience de notre groupe, depuis 2-3 ans qu'on fonctionne, que d'amener les questions de contraception masculine, testiculaire, ça amène un tas d'autres questions qui vont avec, en fait, ou qui en déroulent, qui viennent, et puis ça met les gens dans un certain contexte de parole. De paroles sur l'intime, sur l'expérience amoureuse personnelle, sur plein de choses comme ça, sur les vécus de chacun et chacune aussi, parce que souvent c'est des moments mixtes qu'on fait, même si ça concerne plus directement les hommes. Et que toutes ces discussions-là, en fait, j'ai l'impression qu'on a vécu, on en a déjà passé des heures en discussion avec des gens. Ça reste pas uniquement cantonné sur la technique, sur la contraception, et que là, par contre, je pense qu'on est clairement dans une contribution ou une forme de lutte contre le patriarcat, contre des rôles, des statuts et des privilèges qui vont avec, des réflexes. On est tout de suite dans des remises en question. Du coup, on s'interroge sur c'est quoi la masculinité, qu'est-ce qui est important finalement là-dedans, dans ces histoires qu'on a en nous de virilité, de machin, de rapport à notre propre corps et tout. Ça chamboule pas mal de choses dans la tête des gens.
La contraception masculine manque cruellement de popularité, mais également de reconnaissance. Aurélien suppose même que la réflexion quant à la contraception masculine revient à se dire que c'est possible, ce serait intéressant, mais comme ça fonctionne bien sans, pourquoi aller s'embêter ? Mais alors de quelle manière faut-il agir pour démocratiser ces techniques ?
Il y a plusieurs niveaux sur lesquels il faut agir, quoi. Je pense qu'au niveau sur lequel nous, on est le plus à l'aise sur le terrain, de rencontrer les gens d'égal à égal et de faire des soirées discussions ou des ateliers comme aujourd'hui, qui sont un petit peu, on pourrait dire, dans un type un petit peu éducation populaire. On s'éduque les uns les autres, les unes les autres, et on essaye d'avancer comme ça de manière horizontale à la base de cette société. Bon, il y a ce terrain-là qui est hyper important, mais qui représente tellement de gens que c'est très vaste et infini comme travail. Mais après, il faut évidemment que les médecins s'organisent. Il y a d'une part une formation qui serait nécessaire dans la formation continue, par exemple des médecins de tout type de spécialité, qu'ils puissent à un moment donné aller se former spécifiquement à l'appareil reproducteur masculin notamment et aux techniques de contraception qui vont avec. Donc ça, c'est des choses qui sont à l'œuvre. Hein. Il y a des gens dans le milieu médical qui travaillent pour mettre ces formations-là en place. Bon, c'est pas encore fait. Il y a aussi dans tout ce qui est planning familial, tout le réseau du planning familial à l'échelle de l'Hexagone, qui là aussi, il y a c'est en train de se mettre en place des formations aussi qui vont se mettre en place pour que les militantes bénévoles des plannings, les conseillères et conseillers conjugales, familiales et les médecins qui bossent avec les plannings puissent se former aussi en interne au mouvement du planning. De la même manière, donc ça aussi c'est en train de se mettre en place. Les politiques, c'est évident aussi qu'ils ont un poids et une capacité d'action qui fait que s'ils voulaient tout d'un coup lancer des campagnes ou faire que les gens s'y mettent, ils trouveraient les moyens, c'est sûr. Donc c'est important aussi de les toucher. Bon, ça, c'est un terrain sur lequel moi, je ne suis pas du tout. Je dis pour moi, mais par contre, il y a une association qui s'appelle l'Association pour la recherche et le développement de la contraception masculine, ARDECOM, qui existe depuis 30-40 ans, là, depuis les années 80, qui, elle, fait ce travail-là, qui demande systématiquement à rencontrer les ministres ou attachés des ministres ou secrétaires d'État, etc. Donc que ce soit des moments où ça s'appelle la santé, des fois c'est ou que ce soit l'égalité homme-femme, ou je ne sais pas comment ça s'appelle de nos jours, ces ministères-là, enfin maintenant sous le gouvernement actuel. Il y a donc ARDECOM qui interpelle les élus, les responsables politiques, et puis pour l'instant, avec pas d'écho en fait, parce que eux sans doute qu'ils ne voient pas du tout d'intérêt pour l'instant à ça. Donc en tout cas, les plannings, les médecins, c'est en train de se mettre en place. Et puis d'autre part, Roger Mieusset, il travaille aussi, lui, depuis longtemps, à un modèle qui soit, je dirais, universel, qui puisse convenir à tout le monde et qui soit en vente libre en tant que dispositif médical dans des pharmacies, etc. Donc ça, c'est un travail que lui poursuit depuis longtemps. Je ne sais pas quand est-ce que ça aboutira, hein, ça peut mettre encore plusieurs années, c'est sûr. On est dans un problème où, en fait, une situation qui dure depuis 30-40 ans, où il y a très peu d'hommes qui font la demande d'être contraceptés. Il y a peu d'hommes qui spontanément se disent « Tiens, mais est-ce que c'est pas possible pour moi aussi d'être contracepté? Je vais aller me renseigner auprès d'un médecin. » Voilà. Donc, du coup, ça fait que comme il y a peu de demandes, les médecins sont peu formés, peu informés. Mais du coup, ça fait aussi que quelqu'un qui va voir un médecin, le médecin va facilement pouvoir lui dire « Mais non, ça n'existe pas, en fait. Désolé, monsieur. Si ça existait, on le saurait. Hein, ce serait tellement facile. » Donc, ça fait longtemps que ça dure. Je pense qu'il y a des médecins qui désinforment des patients et puis des patients qui ne pensent même pas à demander, etc. Et donc, par où commencer, c'est difficile. Donc tant que les médecins ne seront pas un peu plus formés, on risque d'avoir de conscientiser la population pour rien. Donc il faut travailler sur tous les tableaux à la fois pour essayer que ça avance, que ça progresse de manière parallèle, un peu ensemble. Bon, ça crée plein de disparités en fait sur le territoire français, par exemple, des zones où mine de rien ça commence à être assez connu. Et il y a du monde, il y a des petits groupes organisés, il y a des publications. Et du coup, dans ces zones-là, ça devient plus facile pour les gens, dans certaines régions ou villes. Et puis, il y a d'autres endroits où, pour l'instant, c'est le désert total.
Il y a plusieurs niveaux sur lesquels travailler dans cet objectif de démocratisation de la contraception masculine, mais il faut également trouver un moyen de responsabiliser les hommes sur la question de la contraception.
Nous, le moyen qu'on a développé, c'est celui de faire des soirées discussions. Où on pose le cadre en fait de l'existence de la contraception possible pour les hommes. On pose les questions en fait de pourquoi est-ce que les hommes ça les intéresse pas. En plus, un moyen comme celui qui est là en atelier, c'est un moyen facile à fabriquer soi-même, avec un suivi médical minimum, juste par des spermogrammes qui peuvent être faits par une ordonnance d'un médecin généraliste qui n'a même pas forcément d'ailleurs besoin de suivre de près cette contraception. C'est facile à lire un spermogramme. Chacun peut être vraiment maîtriser vraiment son processus, sa pratique et avoir confiance et tout. Et du coup, c'est un dispositif que quand les femmes, beaucoup de femmes qui découvrent ce dispositif se disent « Mais si ça existait pour nous, toutes les femmes porteraient ça. Pourquoi les hommes ne se jettent pas là-dessus ?» tu vois. Donc voilà. Nous, du coup, on pose un petit peu ça comme ça, en se disant « Finalement, c'est quelque chose d'appropriable, qui ne nous rend pas dépendants de la médecine, de la chimie, des laboratoires, etc. » Bon, même si on ne parle pas que de cette contraception, il y en a d'autres qui sont aussi hormonales, etc. Et ensuite, on poursuit la discussion en petits groupes, on essaye d'inviter les gens à parler de c'est quoi leur expérience par rapport à la contraception jusqu'à aujourd'hui. C'est intéressant ces moments-là parce qu'il y a des hommes et des femmes. Et il y a une disparité qui apparaît directement dans le vécu de la contraception entre les hommes et les femmes, entre le vécu de délégation ou de juste la capote, ou avoir accompagné ou pas quelqu'un à un avortement, ou prendre une pilule du lendemain, et qu'est-ce que ça fait, etc. Et donc il y a des expériences d'hommes comme ça qui sont souvent un peu dans un truc d'impuissance par rapport à, en fait, une fois que la connerie elle est faite, on ne sait pas trop comment assumer derrière, réparer, etc. Et puis le vécu féminin, beaucoup plus vécu directement par la personne dans son corps. Les témoignages de ça, ça comporte aussi beaucoup de révolte, de douleur, d'injustice. Et cette confrontation-là, elle crée tout de suite le besoin de discuter de ça. Et donc souvent, ces discussions-là permettent au moins de conscientiser qu'il y a effectivement un tabou ou un défaut de communication et que ce serait bien d'en parler plus. Et je crois qu'effectivement, s'il y avait plus de dialogue, si les hommes étaient plus curieux de s'informer aussi du vécu des femmes, et ça arrive par des moments comme ça, des petits moments, des clics, quoi, qui peuvent aider les gens par des moments de discussion à l'aise, comme ça, dans un cadre assez tranquille. Ça arrive que les hommes commencent à être plus curieux et on en vient assez facilement à se dire mais en fait pourquoi du coup j'essaierai pas, en fait pourquoi je m'y mettrai pas, juste ça engage pas à grand chose et puis je verrai bien. Et voilà, il faut dédramatiser le début en fait. Je crois beaucoup au groupe de parole. Au bout de quelques temps de discussion, on va partir sur plein d'autres sujets qui vont à chaque fois rester connectés à ce truc-là de pourquoi nous les hommes, on ne peut pas prendre notre part de responsabilité dans ces choses, quoi. J'ai l'impression aussi dans le planning familial, par exemple, qu'ils sont en train de travailler aussi à intégrer la contraception masculine dans leur pratique, dans l'information qu'ils donnent au public, dans les conseils, interroger les couples sur qu'est-ce qui serait la meilleure solution sans leur cacher que celle-là, elle existe aussi, etc. Elle commence à réfléchir aussi du coup à comment aider les hommes à passer le pas, passer de l'information, de savoir que ça existe, à se dire pourquoi pas moi. Il y a plein de choses qu'on peut imaginer, mais en tout cas, faire mettre les gens autour d'une table et discuter de leur vécu, de leur expérience personnelle et se rendre compte aussi en discutant que en fait c'est assez simple d'en parler.
Même si l'association se concentre sur la technique du remont de couilles toulousain, Aurélien tient à rappeler que l'association informe également sur d'autres moyens de contraception.
Dans notre groupe, on travaille surtout sur cette contraception masculine thermique, donc le remont de couilles, mais on informe aussi du coup sur des... Il faut savoir que la contraception hormonale masculine, elle existe. La pilule pour hommes n'existe pas, mais parce qu'on ne peut pas l'avaler en fait, parce que c'est de la testostérone qui est utilisée. Elle ne peut pas être avalée, donc il faut qu'elle soit en injection intramusculaire. Mais ça existe, c'est un produit qui fonctionne comme la pilule pour les femmes, sauf que c'est une injection, mais ça produit les mêmes effets d'arrêt de la spermatogénèse, donc le sperme devient stérile, Mais l'homme a toujours ses caractères secondaires, sa libido, etc. Il n'y a pas de modification hormonale, voilà, d'équilibre hormonal, etc. Donc ça, ça existe, et c'est disponible aussi, mais pareil, pour les mêmes choses que tout ce qu'on a raconté depuis tout à l'heure, c'est inconnu, c'est méconnu, c'est dénigré, c'est passé sous silence, c'est rendu ridicule dans les discours médiatiques, etc. Et puis il y a la vasectomie aussi qui existe, qui est donc une stérilisation, donc c'est une contraception définitive. Donc elle existe, elle est pratiquée en France, elle est légale et pratiquée. Mais assez peu connu et assez difficile d'accès aussi. Là, avec une résistance assez forte du milieu médical qui considère toujours que c'est une forme de mutilation quand même du corps et qu'il faut réfléchir à deux fois. Mais bon, ça existe et on informe aussi là-dessus et on essaye de se battre aussi pour que ce soit plus accessible. On travaille beaucoup sur la contraception testiculaire parce que c'est notre... C'est ce qui nous relie à la pratique et c'est ce qui nous relie, comme je disais tout à l'heure, à un terrain sur lequel on est forcément dans la déconstruction un petit peu de nos habitudes, réflexes et choses comme ça en tant qu'homme. Et donc sur un terrain où on a la satisfaction de lutter un peu dans le même sens que les féministes.
On l'a bien compris, la contraception masculine est un vaste chantier. Pourtant, elle existe et mérite d'être connue. C'est à force de recherche et d'expérimentation que le développement de ces techniques pourra se faire. Pour celles et ceux qui cherchent un moyen de contraception, il est indispensable de bien se renseigner sur les différentes méthodes qui existent, sur leur mode de fonctionnement et sur leurs conséquences sur le corps. Vous pouvez notamment vous rendre sur le site choisirsacontraception.fr ou prendre directement rendez-vous avec votre médecin ou votre gynécologue pour en discuter. Peu importe le moyen de contraception choisi, la contraception se discute, se réfléchit, et ce n'est pas parce qu'elle est à la charge de l'un qu'elle déresponsabilise l'autre.